Chapitre 50. Choisir ses ennemis. Assise les mains sur les genoux, Elaine, très nerveuse, écoutait les lointaines explosions. Pour cette journée, elle avait choisi la salle du trône, plutôt qu'une salle d'audience moins protocolaire. Il fallait que les gens la voient comme une reine. Avec ses colonnes majestueuses et ses ornements somptueux, la salle du trône en imposait. De chaque côté, des lampes dorées disposées sur deux rangées généraient une vive lumière. Des gardes en blanc et rouge se tenaient devant, leurs plastrons scintillant tant il était poli. Pour faire le pendant aux colonnes de marbre, un magnifique tapis pourpre couvrait le sol. En son centre, on avait brodé en fil d'or le fameux lion d'Andorre. Sur son trône, Elaine portait la couronne de roses. Comme robe, elle avait choisi un modèle traditionnel, très différent de la mode qui faisait actuellement rage à la cour. Les manches, par exemple, étaient larges, avec des manchettes qui tombaient très précisément sur un point de broderie doré, juste au niveau des mains de la reine. Cette configuration était reprise par le corsage, assez haut pour être pudique, mais pas pour qu'on puisse oublier qu'Elaine était une femme, célibataire en outre. Sa mère avait épousé un Kyrienien dès le début de son règne. Certains pouvaient se demander si Elaine n'allait pas l'imiter pour des raisons politiques. Une autre explosion retentit. Au fil des jours, le vacarme des dragons devenait familier, comme un roulement de tonnerre, mais en moins fort et plus régulier. Elaine avait appris à cacher sa nervosité. Une leçon d'abord donnée par ses précepteurs, puis par les Aes Sedai. Quoi que puissent en penser des esprits chagrins, Elaine Trakand savait se contrôler quand il le fallait. Gardant les mains sur ses genoux, elle se força au silence. Trahir de l'anxiété aurait été encore pire que de laisser transparaître de la colère. Dailéline siégeait tout près du trône. Ses cheveux blonds défaits, la superbe noble dame brodait avec une intense concentration. Selon elle, s'occuper les mains aidait à se libérer l'esprit. Morgaz n'était pas présente. En ce jour, elle aurait trop détourné l'attention due à sa fille. Elaine ne pouvait pas se permettre le même luxe que Dailéline. Elle, il fallait qu'on la voie en train de régner. Hélas, régner, ça consistait souvent à rester assise sur son trône, les yeux fixes, en s'efforçant d'être l'incarnation de la détermination et du calme. Tout ça alors qu'elle s'ennuyait ferme, en attendant que les choses sérieuses commencent. Bon, sa démonstration avait assez duré, non? Il y eut une autre explosion. D'accord, il faudrait attendre encore un peu. Dans le salon attenant à la salle du trône, Elaine entendit qu'on murmurait ferme. Toutes les hautes chaires encore présentes à Kaemlyn avaient été invitées à débattre avec la reine des mesures sanitaires à prendre d'urgence pour les gens qui vivaient à l'extérieur de la ville. Cette réunion aurait lieu à 5 heures. Mais sur l'invitation, on encourageait les nobles à arriver avec 2 bonnes heures d'avance. La formulation du message était en principe limpide. Aujourd'hui, Elaine allait faire quelque chose d'important. Et elle avait incité les nobles à venir en avance, histoire qu'ils puissent tendre l'oreille en toute légalité. On leur apportait régulièrement à boire et manger, de petits plateaux de viande et de fruits, histoire qu'ils passent agréablement leur temps. Très probablement, les murmures étaient des spéculations sur ce que la souveraine allait révéler. Si seulement elle l'avait su. Sur sa broderie, Dailéline marmonna entre ses dents, parce qu'elle avait raté un point. Après une longue attente, les dragons cessèrent de faire du boucan, et Elaine sentit que Birgit était déjà en route pour le palais. L'envoyer avec le groupe d'invités était le meilleur moyen de savoir quand celui-ci reviendrait. En ce jour, la chronologie devait être parfaite. Elaine inspira et expira profondément pour se calmer. Si le lien ne l'abusait pas, Birgit arpentait déjà les couloirs du palais. Elaine fit signe au capitaine Gibbon. Il était temps de faire venir les prisonnières. Des gardes arrivèrent quelques minutes plus tard, escortant 3 femmes. L'insupportable Arimila semblait toujours aussi rondelette, malgré sa captivité. D'âge mûr, elle était jolie, ou aurait pu l'être, si elle n'avait pas porté des haillons. Dans ses grands yeux marrons, on lisait de la terreur. Comme si elle pensait qu'Hélène allait la faire exécuter. Elenia était beaucoup plus digne. Comme aux autres, on lui avait retiré sa superbe robe pour la remplacer par un modèle très fatigué. Mais elle s'était débarbouillée et arborait un beau chignon de cheveux blonds. Elaine n'affamait pas et ne faisait pas malmener ses prisonnières. Si elles étaient ses ennemies, aucune des 3 n'avait trahi le royaume d'Andorre. Elenia dévisagea Elaine, son expression toujours aussi froide et calculatrice. Savait-elle où était passée l'armée de son mari? Ses troupes étaient comme un poignard qui menaçait le dos d'Elaine. À ce jour, aucun éclaireur n'avait pu les repérer. Pas la lumière. Les problèmes s'accumulaient. Mince et pâle, Nayan Aron, la troisième captive, avait en principe de merveilleux cheveux noirs, mais il s'était comme terni pendant son incarcération. Déjà brisée avant qu'Elaine se soit assurée de sa personne, elle se tenait à l'écart des deux autres prisonnières. Les trois femmes furent poussées jusqu'au pied du trône, puis forcées à s'agenouiller. Dans le couloir, les nobles kérieniens revenaient de la démonstration martiale en bavardant comme des pies. Ce qu'ils allaient voir, ils penseraient l'avoir surpris par hasard.
« La couronne va statuer sur le sort de Nayan Aron, Elenia Sarand et Arimila Marn »,
annonça Elaine à haute voix. Toutes les conversations cessèrent. Dans la salle entre les nobles andoriens et dans le couloir entre les kérieniens. Des trois femmes, seule Elenia osa lever les yeux. Elaine soutenant son regard, l'insolente s'empourpra, puis baissa de nouveau la tête. Sa broderie oubliée, Dagelin ne perdait pas une miette de la scène.
« La couronne a passé beaucoup de temps à penser à vous, » reprit Elaine. « Votre guerre ratée contre la maison Trakand fait de vous des réprouvés, et vos héritiers, comme vos aïeuls, ont repoussé toutes les demandes de rançon. En d'autres termes, vos maisons vous ont abandonné. »
Alors que les paroles d'Elaine se répercutaient dans la salle, les trois femmes se prosternèrent encore plus humblement.
« Ce qui expose la couronne à un dilemme, »
ajouta Elaine.
« Vos seules existences sont une offense, sachez-le. Certaines reines du passé vous auraient laissé moisir en prison, mais je trouve que c'est une façon d'éluder le problème. Vous entretenir me coûterait une fortune et inciterait des factieux à tenter de vous libérer. »
Dans la salle, on n'entendait plus rien, à part le souffle oppressé des captives.
« Cette couronne n'élude pas les problèmes. En ce jour, les maisons Sarand, Marn et Aron sont privées de tous leurs titres et de toutes leurs terres, annexées par la couronne, en compensation de leurs innombrables crimes. »
Elenia poussa un petit cri et leva les yeux. Arimila se recroquevilla encore plus sur le sol et Nayan ne réagit pas. On eût dit qu'elle était tétanisée. Des murmures montèrent immédiatement du salon. Cette sentence était pire que la peine capitale. Quand on exécutait un noble, il mourait avec tous ses titres. En un sens, c'était un hommage rendu à un adversaire valeureux. Ensuite, le titre et les terres revenaient à l'héritier, et la maison survivait. Mais ça, peu de reines auraient osé une telle manœuvre. Si Elaine passait pour un rapace qui volait des terres et de l'argent pour le trône, toutes les maisons s'uniraient contre elle. Elle devinait la teneur des conversations dans le petit salon. Son pouvoir vacillait sur ses fondations. Alors qu'ils l'avaient soutenue avant le siège, risquant eux-mêmes d'y laisser leur tête, ses alliés commençaient à se poser des questions. Mieux valait en finir au plus vite. Sur un geste d'Elaine, les gardes forcèrent les prisonnières à se relever, puis les entraînèrent d'un côté de la salle. Même l'arrogante Elenia semblait sidérée. Par essence, cette sentence équivalait à une exécution. Dès que possible, les trois femmes se suicideraient plutôt que d'affronter leur maison. Birgit connaissait bien son rôle. Elle entra, précédant le groupe de nobles du Cairien. Invitée pour assister à la démonstration des nouvelles armes d'Andorre contre les ténèbres, c'étaient des seigneurs et des dames de tous les niveaux. Dans le lot, les plus importants étaient sans nul doute Bertom Saigan et Lorstrum Aesnan. Même si Elaine n'aimait pas la manie des Cairieniens de se raser et de se poudrer le front, elle devait reconnaître un certain charme à Bertom. Un coutelas à la ceinture, en présence de la reine, les épées étaient interdites, il semblait perturbé par la façon dont Elaine traitait les prisonnières. De fait, la même chose aurait pu lui arriver, puisque sa cousine, Colavere, avait reçu une punition similaire de la part de Rand, sans qu'elle affecte sa maison entière. Pour échapper à la honte, cette femme s'était pendue. Sa mort avait propulsé Bertom au rang de haute chair. Même s'il se gardait de critiquer Rand en public, les agents d'Elaine étaient unanimes. En privé, c'était un des pires contempteurs du dragon réincarné. Très mince, l'air paisible, Lorstrum Aesnan marchait avec les mains dans le dos, et il avait tendance à regarder la pointe de ses chaussures. Comme les autres membres du groupe, il portait des vêtements sombres à la mode du Cairien, sa veste arborant des rayures aux couleurs de sa maison. Après que Rand eut disparu du quai Rienne, il était passé sur le devant de la scène. En des temps désespérés, les promotions fulgurantes étaient monnaie courante. De plus, ce seigneur ne s'était pas opposé à Rand, même s'il avait refusé de se rallier à lui. Cette position équilibrée lui conférait de l'influence, et on murmurait qu'il avait des vues sur le trône. À part ces deux-là, la délégation comptait surtout des nobliaux. Aïlil Riatine ne dirigeait pas sa maison, mais depuis la disparition de son frère, qui ressemblait de plus en plus à un décès, elle exerçait le pouvoir. Et la maison Riatine n'était en aucune façon à négliger. Mince, d'âge mûr, Aïlil était grande pour une kairiénienne. Vêtue d'une robe bleue rehaussée de rayures sur le corsage, elle portait une jupe à crinoline. Sa famille avait occupé le trône du soleil récemment, mais pour une durée relativement courte, et elle était connue pour soutenir Elaine, en apparence en tout cas. Le seigneur et la dame Ossielin, le seigneur et la dame Chuliandred, le seigneur et la dame Amarachley et le seigneur Mavabouin suivaient les deux nobles les plus importants. Tous avaient assez peu de pouvoir. Pour une raison ou pour une autre, ils devaient être de fervents adversaires d'Elaine. Bref, une jolie bande d'inutiles bien coiffés, poudrés et bardés de bijoux et de dentelles.
« Mes seigneurs et mesdames !»
dit Elaine, avant de citer chacune des maisons.
« Avez-vous apprécié la démonstration d'Andorre ?»«
Au plus haut point, Majesté !»
répondit Lorstrum en inclinant la tête.
« Ces armes sont très... intrigantes. »
À l'évidence, le bougre allait à la pêche aux informations. Mentalement, Elaine remercia ses précepteurs de l'avoir très tôt formé au grand jeu.
Nous savons tous que l'ultime bataille est imminente,
dit Elaine.
J'ai pensé que le Kairien méritait de connaître la puissance de son plus grand et plus amical allié. Dans un avenir très proche, nos deux pays devront compter l'un sur l'autre.
C'est bien vrai, Majesté,
dit Lorstrum.
Majesté,
intervint Bertom en faisant un pas en avant. Il croisa les bras.
Je vous assure que le Kairien se réjouit de la puissance et de la stabilité d'Andorre.
Elaine dévisagea le noble. Était-ce une offre tarabiscotée de soutien? Non. Celui-là aussi allait à la pêche, cherchant à savoir si la reine d'Andorre convoitait le trône du soleil. Depuis qu'elle avait envoyé des bras rouges dans la capitale du Kairien, les intentions d'Elaine auraient dû être claires. Mais pour les adeptes du grand jeu des maisons, ce n'était peut-être pas assez subtil.
J'espère que le Kairien bénéficiera de la même stabilité,
dit Elaine, très prudente. Plusieurs Kairieniens approuvèrent du chef, sans doute parce qu'ils la croyaient susceptible de proposer la couronne à l'un d'entre eux. De fait, avec le soutien d'Andorre, la partie aurait été gagnée. Et Elaine aurait vu monter sur le trône un de ses sympathisants. Une autre reine aurait misé sur ce tableau, pas elle. La couronne serait pour sa tête.
« La conquête du trône est une opération très délicate,
dit Lorstrum,
voire dangereuse, comme nous avons pu le constater par le passé. Il y a tellement de gens hésitants. »
Je comprends,
fit Elaine.
Et je sais à quel point le Kairien a vécu dans l'incertitude ces derniers mois.
Et maintenant, la manœuvre décisive. Elaine prit une grande inspiration.
Étant donné la puissance d'Andorre, il semble que le moment soit idéal pour contracter une alliance solide. Pour tout dire, la couronne vient d'acquérir des domaines très importants et prospères. Et je m'aperçois que ces perles andoriennes n'ont plus de dirigeants.
Tout le monde se tut, même dans le petit salon. Les nobles andoriens avaient-ils bien entendu? Elaine venait-elle de proposer à des étrangers de diriger des terres appartenant au royaume? Elaine étouffa un sourire. Lentement, l'idée cheminait sous les crânes. Le regard brillant, Lorstrum fit un petit signe de tête à la reine.
Le Kairien et Andorre sont de très vieux compagnons de route,
reprit Elaine, comme si cette idée venait vraiment de lui traverser l'esprit.
Nos dames et nos seigneurs s'épousent entre eux, tissant entre nous des liens à la fois affectifs et familiaux. Tout bien réfléchi, je pense que ma cour n'aurait qu'à se féliciter de la sage influence de quelques seigneurs kairieniens. De plus, il serait en mesure de m'en apprendre plus sur mon héritage, côté paternel.
Elaine chercha le regard de Lorstrum. Allait-il mordre à l'hameçon? Au Kairien, cet homme possédait un très petit domaine, mais son influence, pour l'instant, était majeure. Parallèlement, les terres saisies aux trois prisonnières comptaient parmi les plus vastes et prospères d'Andorre. Il fallait que Lorstrum comprenne. Si Elaine s'emparait par la force du trône du soleil, le peuple et les nobles se révolteraient contre elle. Et si elle ne se trompait pas, Lorstrum serait en partie responsable de cette réaction. Mais que se passerait-il si elle confiait des terres andoriennes à certains nobles du Kyrien, tissant ainsi des liens nouveaux entre les deux pays? En outre, elle prouverait qu'elle n'avait aucune intention de dépouiller de leurs titres les dames et les seigneurs kyrieniens, bien au contraire. S'il comprenait qu'elle n'avait aucune intention de les détrousser au profit de la noblesse andorienne, ces gens cesseraient-ils de s'inquiéter?
« Je vois un grand potentiel à ces alliances, » dit enfin Lorstrum.
Berthom approuva du chef.
« Moi aussi, je pense que c'est très séduisant. »
Aucun des deux n'était prêt à céder ses terres, bien entendu. En revanche, ajouter à leur patrimoine des domaines andoriens leur souriait. Surtout ces domaines-là. Elaine se radossa à son trône et tenta de calmer les battements affolés de son cœur.
« J'ai un domaine de plus à attribuer, »
dit-elle.
« Mais je crois qu'il peut être divisé. »
Pour s'assurer du soutien d'Ailil, il faudrait qu'elle ait aussi quelque chose. Et maintenant, il fallait passer à la deuxième partie du plan.
« Dame Sarande !»
appela Elaine. Digne, malgré ses haillons, Elenia avança jusqu'au trône.
« La couronne n'est pas exempte de clémence, tu le sais. Si Andor ne peut pas te pardonner le mal que tu lui as fait, d'autres pays n'auront pas les mêmes préventions. Dis-moi, si le trône te proposait de nouvelles terres, saisirais-tu cette occasion ?»«
De nouvelles terres, Majesté ? De quoi s'agit-il exactement ?»«
Une union entre le Kyrien et Andor serait fertile en séduisante occasion. As-tu entendu parler de l'alliance entre la couronne et le Gealdan ? Peut-être sais-tu que des terres ont récemment été revitalisées dans l'ouest du royaume. Bref, nous vivons une époque riche en possibilités. Si je vous trouvais à toi et à ton mari un endroit où fonder une nouvelle maison au Kyrien, saisiriez-vous l'occasion au vol ?
Eh bien, j'y réfléchirai, c'est sûr, Majesté. »
Dans le regard d'Elenia, une étincelle d'espoir dansait de nouveau. Elaine se tourna vers les nobles du Kyrien.
Afin que tout ça soit faisable,
dit-elle,
il est obligatoire que j'aie l'autorité pour parler à la fois au nom d'Andor et du Kyrien. Combien de temps faudrait-il pour que ce soit possible ?
Renvoyez-moi au pays via un de vos étranges portails,
dit Lorstrum,
et donnez-moi une heure. 30 minutes,
surenchérit Berthom.
C'est tout ce qu'il me faudra, Majesté.
Du regard, il défia Lorstrum.
Ne lésinons pas et partons sur une heure,
dit Elaine en levant les mains.
Bon,
fit Birgit, dès que la porte du petit salon fut refermée.
Au nom de la maudite main gauche du ténébreux, que vient-il de se passer exactement ?
Elaine s'assit. Son plan avait fonctionné. En tout cas, ça semblait bien parti. Après l'inconfort du trône, le fauteuil rembourré lui fit un bien fou. Dagelin s'assit sur la droite de la reine et Morgaz sur sa gauche.
« Ce qui vient d'arriver,
dit l'ancienne reine,
c'est que ma fille est brillante. »
Elaine en sourit de gratitude. Birgit, elle, plissa le front. Dans le lien, son Aes Sedai sentit de la confusion. Dans la petite pièce, les trois femmes et la championne étaient seules. Une heure à attendre pour connaître le résultat de la machination d'Elaine.
« D'accord, d'accord, »
maugréa Birgit.
« Donc, tu distribues une partie de la terre andorienne à des nobles du Kyrien.
Un pot de vin, »
lâcha Dagelin, qui semblait moins convaincu que Morgaz.
« Une manœuvre intelligente, mais dangereuse. »
Dangereuse ?
S'étrangla Birgit.
Par le sang et les cendres ! Quelqu'un veut bien expliquer à l'idiote que je suis en quoi la corruption est brillante ou intelligente ? Enfin, ce n'est pas Elaine qui l'a inventé.
C'était plus qu'un cadeau,
dit Morgaz. Spectacle incongru, elle entreprit de faire le service de l'infusion. De sa vie, Elaine n'avait jamais assisté à rien d'approchant.
L'obstacle majeur qui se dresse entre Elaine et le trône du soleil, c'est qu'elle risque de passer pour une conquérante. « Et alors ?»
grogna Birgit.
« Alors, elle tisse des liens entre les deux nations. »
fit Dailin, en acceptant la tasse de noir de Tremalking que lui tendait Morgaz.
« En offrant des terres à ses nobles, elle montre qu'elle n'a pas l'intention de dépouiller de ses biens l'aristocratie du Kyrien.
De plus, »
enchaîna Morgaz,
« elles se font ainsi dans la masse. Si elle s'était emparée du trône, le Kyrien aurait été à elle, » en faisant la seule personne à détenir les richesses dans les deux nations. À présent, elle sera une privilégiée parmi des dizaines.
Mais c'est dangereux,
insista Dayeline.
Lorstrom n'est pas entré dans le coup à cause du pot de vin.
Ah bon ?
S'étonna Birgit.
Mais...
Elle a raison,
dit Elaine.
S'il joue la partie, c'est parce qu'il pense avoir une chance de récupérer les deux trônes.
Un lourd silence suivit ses propos.
Maudite cendre !
Lâcha enfin Birgit.
Elaine,
fit Dayeline.
Tu viens de te créer des ennemis qui risquent de te renverser. S'il t'arrivait malheur, Lorstrom ou Bertom pourraient bien tenter de gagner les deux royaumes.
C'est sur ça que je compte pour les appâter. Pour l'heure, ce sont les nobles les plus influents de Cairienne. Et il en restera ainsi tant que Dobraine ne sera pas revenu de l'endroit où Rand l'a envoyé, où que ce soit. S'ils soutiennent l'idée d'un monarque unique, ils joueront ensemble dans notre main. Ils feront mine de t'épauler, avec l'arrière-pensée de s'approprier les deux trônes,
martela Dagueline.
Mieux vaut choisir ses ennemis que ne pas savoir qui ils sont,
dit Elaine.
Aujourd'hui, j'ai drastiquement limité la concurrence. Ces gens ont vu les dragons, et ça les a fait baver. Ensuite, je leur ai proposé d'avoir accès à ces armes et de doubler leur fortune. Cerise sur le gâteau, je leur ai donné l'espoir d'être un jour couronné roi.
Du coup, ils essaieront de te tuer,
récapitula Birgit.
Probablement, oui. À moins qu'ils décident de miner à petit feu mon pouvoir. De toute façon, ils attendront au moins 10 ans. Frapper maintenant, ce serait courir le risque de diviser de nouveau les nations. Pour l'instant, ils prendront possession de leurs terres et profiteront de leur fortune. Quand ils seront sûrs de ne rien risquer parce que j'aurai baissé ma garde, là, ils attaqueront. Coup de chance, ils sont 2, ce qui me laisse la possibilité de les monter l'un contre l'autre. En attendant, nous nous sommes fait des alliés solides. Des hommes qui ont intérêt à me voir assis sur le trône du soleil. Du coup, ils m'offriront la couronne sur un plateau d'argent.
Et les prisonnières ?
Lança Dagueline.
Et Lénia et les deux autres. Tu veux vraiment leur trouver des terres ?
Oui,
assura Elaine.
En réalité, j'ai été très gentille avec elles. Le trône s'acquittera de leurs dettes, puis leur permettra de prendre un nouveau départ au Cairienne. Je serai ravi de voir des Andoriens s'y approprier des terres. Même si elles m'appartiennent déjà, puisque je devrais les sélectionner dans mes propres propriétés au Cairienne.
Tu finiras entouré d'ennemis,
dit Birgit. Agacée, elle secoua la tête.
Comme toutes les reines. Par bonheur, tu es là pour me protéger, pas vrai ?
Elaine sourit, mais ne se fit pas d'illusions. Sa championne sentait à quel point elle était tendue. L'heure à venir semblerait longue. Très longue.